Merci, colonel Amouzou Martin. Nous revenons ici pour entrer directement dans la deuxième partie de cette conférence de presse, la partie questions-réponses. Et je vais vous demander, comme d'habitude, d'éteindre vos portables, de le mettre sous silence. Et nous restons ici à Kinshasa pour prendre la première question de l'année 2016. Qui est l'honneur? À qui l'honneur? Laissez l'honneur à une dame, quand même. Allons-y. Micro? Je crois qu'on a un micro de ce côté, non? Oui, mettez ça un peu plus bas. Amenez ça un peu plus bas. Voilà. Comme d'habitude, vous vous présentez et j'aurais bien aimé avoir une question et non pas une double ou une triple question.
Merci, c'est Marthe Bosso-Andolé pour l'agence France Presse. Ma question, ça s'adresse soit au porte-parole ou au militaire ou au civil, mais c'est par rapport à la situation dans la province du Sud Kivu. Les colonels viennent de dire que la situation est calme, mais est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur des rumeurs concernant des infiltrations des rebelles burundais dans cette partie du territoire congolais? Merci.
Je vais essayer de donner quelques éléments de réponse et peut-être que le colonel Martin pourra compléter beaucoup plus l'aspect militaire. Je vais essayer de rester plutôt sur l'aspect politique un peu. Il faut dire que, comme je l'ai lancé tout à l'heure, monsieur Maman Sambo Sidikou, le représentant spécial du secrétaire général, se rend ce matin dans l'est de la RDC. De Goma, il ira à Bukavu et aussi c'est pour prendre un peu la mesure de l'afflux de réfugiés burundais dans cette partie de la RDC, au sud de Kivu donc. Il y a pas mal de rumeurs dans cette zone comme d'habitude, mais nous essayons un peu, en collaboration avec les FRDC sur le terrain, prendre à bras le corps notre mission de protection des civils. Nous essayons, vous savez qu'il y a ce grand camp de Lucinda qui rassemble pas mal de réfugiés dans cette zone, et très probablement que monsieur Sidikou visitera ce camp pour voir un peu les dispositifs qui sont déjà pris en place et voir dans quelle mesure éventuelle on pourrait renforcer ce dispositif une fois de plus en collaboration, en concertation avec les FRDC, la PNC qui sont présents sur le terrain et qui ont la responsabilité première d'assurer la sécurité de ce camp de Lucinda. Bien sûr avec notre appui ne fera pas défaut en tout cas à nos collègues de la PNC et des FRDC. C'est vrai que nous avons entendu ces rumeurs d'infiltration, de circulation d'armes, mais tout est mis en œuvre une fois de plus pour que la sécurité des personnes et des biens sur place à Lucinda, au sud Kivu de façon générale, soit assurée par la MONUSCO en collaboration avec les FRDC et la PNC. Nous ne pensons pas qu'il y ait eu des indices sérieux qui montrent une dégradation très sérieuse de la situation sécuritaire, mais toutes les mesures sont prises en place réellement pour que cela n'intervienne pas éventuellement. Nous restons ici toujours à Goma pour une deuxième, on va rester à Kinshasa du moins, c'est vrai que nous irons tout de suite après à Goma, mais la parole est à vous.
Merci Albert Omban, America TV. Je voudrais, monsieur le porte-parole, par votre intermédiaire, demander au porte-parole militaire la situation exacte de Miriki, où, à l'état actuel, il n'y a pas, on dit présumer FDLR ou des rwandophones, on n'a pas encore, est-ce que la MONUSCO a mené des enquêtes pour avoir de précisions sur les anciens, parce qu'il y a eu des maïmaïs dans la contrée, le FDLR et d'autres groupes armés. Lesquels qui a perpétré cet attentat de Miriki?
C'est très simple. Nous savons que dans l'est de la RDC, il y a des zones, j'allais dire, d'influence de certains groupes armés. Nous savons que dans la zone, effectivement, de Lubero, Walikale, Rutshuru, etc., les FDLR opèrent. C'est une zone, j'allais dire, de prédilection où opèrent les FDLR. Nous savons que dans le Grand Nord, autour de Beni, Irengeti, etc., Oicha, opèrent les ADF. Ça, c'est clair. Nous savons donc, nous avons une cartographie presque précise, ou assez précise en tout cas, de la présence des différents groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela que nous disons parfois avec une certaine conviction que certains groupes armés ont sans doute opéré, Parce que une fois de plus, quand on n'a pas mis la main sur un individu, on peut pas dire avec une certitude à 100%. Mais nous savons que c'est leur zone d'influence, c'est leur zone d'opération, de prédilection, comme je le disais. Et donc, à Mériki, effectivement, nous pouvons dire avec un fort pourcentage, j'allais dire, de certitude, que il s'agit bien évidemment des FDLR qui sont présents. Auparavant, vous savez que ces FDLR ont eu maille à partir avec pas mal de groupes maï-maï, comme vous dites. Même les populations locales, il y a pas mal de tensions internes et techniques dans la zone, et nous savons que les FDLR sont présents et appuieraient l'un ou l'autre de ces groupes éventuellement. Et donc c'est avec vraiment certitude que nous disons que probablement il s'agit effectivement de FDLR américains. Colonel, vous avez quelque chose à ajouter sur la question précédente d'ailleurs aussi?
Merci Charles. Sinon, c'était pour lui rappeler qu'il y a 3 mois, il y a eu une coalition Maï-Maï Ira qui affrontait les FDRR dans les localités de Bloussa et autres. Et les FDRR ont été boutés de cette région et près de 4 villages ont été brûlés dans les localités. Il y a un mois environ. Bon, suite à cela, il y a eu des déplacés vers Katale, où il y avait la position des FADC, et aussi vers Mériki, où il y avait la force de la MONUSCO. Bon, à Mériki, il y avait plus de 10 000 déplacés. Mais il y a environ un mois, il y avait un groupe Maï-Maï qui avait tenté de déranger les déplacés qui étaient autour de la base de la MONUSCO de Mériki. Les FADC ont réagi et ils ont été soutenus par la force de la MONUSCO. Bon, l'événement du 6 dernier, je pense qu'il y a des enquêtes en cours. Nous n'allons pas dévancer les résultats des enquêtes. Nous allons attendre toujours l'aboutissement des investigations. Merci, Charles.
Tout à fait. Il faut dire qu'une enquête menée par la section droits de l'homme de la MONUSCO était sur le terrain dès le lendemain de cette attaque, pour ouvrir cette enquête, et j'espère que dans les prochains jours, on aura beaucoup plus de détails. Nous restons en fait à Goma pour 2 questions.
Vous pouvez avoir le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mon nom est Fidel Bafilemba pour Wishing Pictures, basé à Goma. Ma question s'adresse à Marcel Florence. Puisque vous avez parlé de la fille de réfugiés burundais, je voudrais savoir s'il existe au Congo ou principalement au Kivu des réfugiés rwandais. Et si oui, où est-ce que nous les localisons? Qui s'occupe de leur protection? Merci beaucoup.
A-t-on un collègue du HCR sur la place ou de Ocha? Peut-être que, est-ce qu'on a la présence au sud Kivu de réfugiés Pas d'éléments. Nous avons Ocha qui malheureusement n'a pas d'éléments de réponse. Peut-être que Madame Marshall pourrait prendre note pour nos collègues de l'UACR qui pourraient la semaine prochaine ou avant même la semaine prochaine donner quelques éléments de réponse éventuellement. Nous restons toujours à Goma pour une autre question.
Merci beaucoup, c'est Aliassan Kadarius, correspondant de Royal FM. Tout en vous cotant sur 10 points, je m'adresse au porte-parole de la MONUSCO. Quel peut être le bilan de cette organisation au courant de l'année 2015 et quelles sont vos perspectives d'avenir? Merci.
Bon, Monsieur Maman Sambou Sidikou est à Goma ce matin. Je crois que vous aurez la chance de lui demander directement. Il est le premier responsable de la mission. Nous pensons que la MONUSCO continue à œuvrer dans le cadre des différentes résolutions du Conseil de sécurité, à remplir sa mission de protection des civils, à remplir sa mission de stabilisation, de sécurisation des populations civiles. C'est une mission très difficile. Vous savez le nombre de groupes armés qu'il y a dans cette zone de l'Est du pays, une 50aine selon certains ONG spécialisées sur ces questions, une 60aine même, j'ai vu, sur un d'autres ONG. Nous prenons quand même très sérieusement cette mission à bras le corps et nous essayons de la remplir aux côtés une fois de plus, des FARDC qui ont la mission première et régalienne de défendre le territoire national congolais. Et nous pensons que cette mission va dans le bon sens. Nous avons dit et redit à plusieurs reprises que nous attendons éventuellement cette reprise des opérations militaires FARDC appuyées par la MONUSCO. Si cela arrivait au cours des prochains mois ou des prochaines semaines, en tout cas, cela irait dans le bon sens. Nous pourrons monter en puissance graduellement pour, une fois de plus, avec détermination, avec rigueur, avec sérieux, j'allais dire dérouler donc c'est notre mission sur le terrain. Oui, vous pouvez compléter.
Du côté de l'équipe de pays des Nations Unies et des Nations Unies en général, la feuille de route pour l'année à venir, depuis le 1er janvier, vous le savez, les objectifs de développement durable sont entrés en vigueur. Ces objectifs de développement durable qui remplacent les objectifs du millénaire pour le développement. Et bien évidemment, toutes les entités des Nations Unies présentes en RDC vont accompagner dans les années à venir, et particulièrement et à commencer par cette année, le gouvernement de la République démocratique du Congo pour la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable, avec une première étape qui sera d'identifier parmi les 17 objectifs de développement durable lesquels sont prioritaires pour la RDC et comment et quelles sont les actions qui devront être menées pour les mettre en œuvre de façon efficace.
Souvent, nous insistons à la MONUSCO sur les questions militaires. C'est vrai que c'est important car elles sont un peu le soubassement des questions de développement. Mais les questions civiles aussi sont importantes pour la MONUSCO car il n'y a pas qu'un volet militaire dans les mandats de la MONUSCO. Comme vous le savez, nous devons accompagner les prochaines élections ici dans le pays. Le processus est engagé. Il y a deux jours, Maman Sambou Sidikou était au bureau de la CENI où il a rappelé l'importance justement de la révision du fichier électoral comme base préalable en fait d'engager un processus électoral serein dans le pays. Donc, en fait, tout cela rentre dans le cadre effectivement du bilan un peu cette année de la MONUSCO. C'est un travail qui a été commencé depuis l'année dernière par le prédécesseur de M. Sambou Sidikou et ce travail va encore monter en puissance dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, afin d'accompagner la RDC, les institutions de la RDC vers des élections paisibles et apaisées. Nous revenons ici à Kinshasa pour prendre une question au fond, une autre question au fond, à droite d'abord, puis à gauche ensuite. Le fond est assez relatif, hein, ça peut être le milieu. Bon, une question quand même. Bon, celui qui a le micro décide un peu. Hein. Allez-y, présentez-vous et puis une question s'il vous plaît.
Roger Marley Lukunga. Bon, au début, l'année a commencé avec une annonce qui nous a semblé un peu horrifiante, c'est que la MONUSCO devait retirer plus de 2700 éléments. Mais curieusement, dans votre rapport, vous n'en avez pas fait état. Nous aimerions savoir si ce retrait d'éléments est effectif ou quand est-ce qu'il aura lieu.
Il s'agit effectivement d'une proposition faite par Ban Ki-moon de retrait, non pas de 2000, mais de 1700 hommes de la force de la MONUSCO. Il s'agit en réalité, dans le cadre du dialogue stratégique engagé l'année dernière avec le gouvernement, ces questions avaient été évoquées, soulevées, débattues même avec les autorités gouvernementales. Vous saviez que la partie gouvernementale demandait un retrait beaucoup plus important. L'année dernière, on s'était convenu d'un retrait de 2000 hommes qui avait été effectué. Suite à la poursuite de ces discussions, le secrétaire général vient de demander au Conseil de sécurité d'examiner la possibilité de réduction de la force de la MONUSCO de 1700 hommes. Il faut dire qu'il a précisé, le secrétaire général des Nations Unies, que cette réduction ne porterait pas atteinte à la capacité, de résistance, de feu des troupes de la MONUSCO. Car en même temps qu'il y a cette réduction des troupes de la MONUSCO sur le terrain, les forces de la MONUSCO se transforment, essaient d'être beaucoup plus opérationnelles, essaient d'acquérir un certain nombre d'équipements pour la rendre plus performante, plus efficace sur le terrain. Donc en même temps qu'il y a cette réduction de la population, mais la dernière est une proposition qui n'est pas encore, j'allais dire, approuvée par le Conseil de sécurité qui doit l'examiner, en même temps qu'il y a donc cette réduction, il y a cette transformation aussi de la force qui devrait permettre d'avoir une force plus agile, plus opérationnelle en termes de moyens techniques aussi, afin d'être plus efficace sur le terrain. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Une fois que le Conseil aura effectivement décidé, approuvé cette proposition, qui reste encore une proposition de Ban Ki-moon, vous serez informé en temps et heure voulu. D'accord, on va revenir, mais je crois qu'on va prendre une deuxième question, ensuite on va revenir au HCR.
Alain Mouzi pour la radio SCC.
SCC, c'est quelle radio ça? Je ne la connais pas bien.
Église de Christ au Congo.
Merci, c'est bon.
Monsieur Bambara, vous venez de le dire, le responsable de la MONUSCO, Mama Sambo Sidiko, a été reçu par le président de la CENI en début de la semaine, Corneille Nanga. Au menu de leurs échanges, le chef de la MONUSCO a demandé notamment que la révision du fichier électoral ne prenne pas assez de temps. C'est une façon de dire que les élections doivent se tenir dans les délais constitutionnels?
Mais personne n'a jamais dit que les élections ne devraient pas se tenir dans les délais constitutionnels, ni la partie gouvernementale, même si c'est vrai, il y a pas mal de discussions autour de certaines questions, notamment le mot glissement est revenu à plusieurs reprises, mais officiellement, je ne pense pas que le chef de l'État lui-même ait parlé du non-respect de ce délai constitutionnel. Et donc nous, au niveau de la communauté internationale, au niveau de la MONUSCO, nous essayons d'encourager la CENI, qui est un organe technique d'accompagnement du processus électoral, afin qu'elle prenne au sérieux et qu'elle s'engage de résolument dans la mission qui lui est confiée, et notamment Maman Sambo Sidiko. Du coup, l'a dit très clairement, à la base, il y a la nécessité de cette révision du fichier électoral qui avait déjà été d'ailleurs identifiée comme telle par, j'allais dire, les spécialistes ou les experts de l'OIF en leur temps l'année dernière, après leur audit du fichier électoral. Ils ont mis à nu un certain nombre de problèmes, et c'est un peu pour renforcer ce message qui avait été donné l'an passé par l'OIF que M. Sambo Sidiku a encouragé, a vraiment exhorté donc la CENI à revoir comment on pouvait donc s'atteler à cette tâche-là. La question des nouveaux majeurs est toujours d'actualité. Ils sont de l'ordre de 7 à 8 millions selon certains chiffres qui ont été avancés. La question aussi des doublons dans ce fichier électoral avait été évoquée. Il y a aussi depuis cette période pas mal de, malheureusement, personnes qui étaient inscrites sur ce fichier électoral qui malheureusement ne sont plus, ne vivent plus. Donc il faut prendre tout cela en compte afin d'avoir un fichier électoral fiable qui peut être là, une bonne base pour les prochaines élections, et c'est ce que nous pouvons dire. Nous allons revenir donc sur cette question qui avait été posée au HCR et qui demandait est-ce qu'il y a effectivement dans le site Kivu au niveau peut-être du camp de Lucinda ou ailleurs dans le site Kivu de façon générale la présence de réfugiés, on disait rwandais, c'est bien ça? Burundais, voilà, plutôt, voilà. Et rwandais peut-être aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Bon, je pense que c'est deux questions. Est-ce que le micro est...
Oui, le micro devrait marcher. Hein. Allez-y.
Il y avait deux questions séparées là. D'abord, les réfugiés burundais qui, effectivement, se trouvent surtout au sud Kivu.
Voilà, c'est bon, je crois.
Les réfugiés burundais se trouvent surtout au sud Kivu. Le camp de Lucinda a été mentionné dans le contexte des craintes de sécurité. Je voudrais juste mentionner que ce camp de Lucinda, qui héberge plus que 10 000 réfugiés burundais, est un lieu relativement sécur et il est très loin de la frontière. Donc, les soucis sécuritaires se focalise surtout à la présence des ressortissants burundais qui sont proches de la frontière terrestre. Et le camp de Lucinda, en suivant le lac Tanganyika vers le sud, très loin de cette frontière, il est sécurisé par la police et pour cela, on n'a pas trop de craintes concernant une infiltration ou de la participation dans les activités militaires. La sécurité, en général, est relativement bonne. Deuxièmement, il y avait la question sur la présence de réfugiés rwandais, si j'ai bien compris. Il y a effectivement des réfugiés rwandais en RDC depuis très longtemps, depuis les années 90, liés à la crise au Rwanda. Malheureusement, on ne sait pas exactement leurs chiffres, hein, parce qu'ils sont éparpillés dans le territoire. Actuellement, le HCR, il est en train de continuer un exercice d'enregistrement biométrique dans beaucoup de zones où il se trouve des réfugiés rwandais. Et il appelle tous les réfugiés rwandais qui veulent garder leur statut de réfugié pour le moment de se faire enregistrer biométriquement pour qu'on sache leur nom, leur composition familiale, etc. Il y a aussi une opération de rapatriement volontaire qui se poursuit depuis des années. Il y a des milliers de réfugiés rwandais qui sont rentrés en toute sécurité dans leur pays. Et cet enregistrement ouvre la possibilité de rentrer volontairement au pays, même s'il n'oblige pas la personne qui se fait enregistrer de rentrer. Merci.
Voilà, merci donc à notre confrère Andrea Kirchhoff du HCR. Je pense que nous allons nous rendre à Goma. Sinon, d'habitude, ils vont nous dire que voilà, en ce début d'année, on a encore continué à favoriser Kinshasa par rapport à Goma. Goma, c'est à vous pour deux questions. Ensuite, on revient ici à Kinshasa.
On aurait bien voulu donner la parole aux filles, mais apparemment, elles ne sont pas inspirées. Donc, nous repartons avec les garçons. Dixième.
Merci, c'est Vivien Zavari, là pour les comptes de la radio Bretagne localement et pour les comptes du site imoui.info et RTBF. La question, c'est par rapport à ce que notre confrère de Kinshasa avait demandé, c'est toujours par rapport aux déclarations, différentes déclarations de Maman Sambo Sidikou. On aimerait savoir, en fait, au-delà de cette déclaration, quels pourraient être les soutiens exactement à la MONUSCO pour ces élections. En fait, c'est quelque chose qu'on voudrait avoir comme précision. Merci.
Au-delà de la MONUSCO, il faut savoir qu'il s'agit de toute la communauté internationale et des agences du système des Nations Unies qui... Et comme vous l'avez entendu de la bouche même de M. Sidikou, il a dit que nous attendons un peu le cahier de doléances de la CENI pour savoir exactement ce dont ils ont besoin, quand est-ce qu'ils ont besoin, de quoi exactement, pour qu'en réponse, la communauté internationale, donc les agences du système des Nations Unies, puissent apporter cet appui technique, financier, pour ce travail qui est très important. Et il a été très clair, nous sommes prêts, nous, à notre niveau, pour aider la CENI, mais il faut que nous sachions très exactement ce dont elle a besoin. Et voilà un peu ce que je peux vous dire à ce stade. Une fois que Monsieur Nanga Corneille et, j'allais dire, ses experts, après examen, j'allais dire, de tout ce processus, apporteront sur la table, j'allais dire, de la communauté internationale leurs doléances, et doléances seront aussitôt prises en compte, c'est ce que je peux vous assurer. Nous restons toujours à Goma pour une autre question.
Félix Abedi. Merci. Félix Abedi, je vais vous poser la question, mon colonel. Quand vous dites que vous êtes en train d'attendre le dialogue stratégique qui va vous donner peut-être le feu vert hein, pour que les opérations de la MONUSCO, que les casques bleus puissent prendre part aussi, est-ce que ce n'est pas une façon de pouvoir chercher à s'inviter à la fête, d'autant plus qu'on vous semble être calé quelque part.
Au-delà du dialogue stratégique, on peut dire ceci, colonel, ensuite vous compléterez. Au-delà du dialogue stratégique, il faut savoir que l'appui des troupes de la MONUSCO n'a jamais fait défaut au FRDC, que ce soit à l'est du pays, à Beni, lors des opérations Sokola 1, régulièrement, les troupes de la MONUSCO apportaient appui logistique, donc transport, etc., sur le terrain, appui feu. Les hélicoptères de la MONUSCO sont régulièrement entrés en action pour pilonner des positions ADF, que ce soit au sud Kivu contre les FNL à l'époque, que ce soit au Katanga également. Donc, au-delà même du dialogue stratégique, C'est vrai que nous souhaitons la reprise de ce dialogue pour régler un certain nombre de questions, mais il faut vous dire que nous n'attendons pas un certain feu vert quelque part, même si ce feu vert pourrait, comme je l'ai dit, aider à monter en puissance. Cela est aussi vrai. Et donc, voilà, le dialogue stratégique est une chose, mais la mission de la MONUSCO ne s'arrête pas, même si ce dialogue ne reprenait pas. Les résolutions du Conseil de sécurité nous interpellent, et c'est très clair, protection des civils, stabilisation, sécurisation, et cela se fait presque au quotidien. La brigade d'intervention est toujours là. Elle a été déployée en renfort ces derniers jours à Miriki pour, aux côtés des FRDC, une fois de plus, pour sécuriser cette population qui a été victime des frappes des ADF, etc., etc. Colonel, vous avez peut-être deux mots à ajouter?
Oui, merci beaucoup, Charles. Et j'espère que l'ami n'a pas été clair dans sa question. Il parle de dialogue stratégique pour quelle opération? Moi, j'espère que la force de la MONUSCO est impliquée dans l'opération Sikolawa. C'est pour l'opération Sikora 2 que le problème de dialogue stratégique se pose, l'opération contre la FDRL. Et jusqu'à présent, nous attendons l'aboutissement du dialogue stratégique. Merci.
Nous revenons ici à Kinshasa pour prendre beaucoup de mains en ce début d'année. Je voulais choisir, vous qui avez le micro, qui vous préférez. Bon, voilà. C'est lui qui a choisi, c'est pas moi. Une question, s'il vous plaît.
Guy Olume, RTNC2 Développement. Ma question s'adresse à Florence Marchal. Au nom de la protection de l'enfant, est-ce que l'UNICEF fait le suivi de tous les enfants congolais adoptés à l'étranger? Si oui, quelle est les statistiques pour l'année 2015?
Alors, comme nous l'avons indiqué, nous avons un spécialiste de l'UNICEF qui est là, donc qui va vous répondre.
La protection donc à l'UNICEF. Et sur le sujet des adoptions internationales, il faut dire que l'UNICEF en tant que tel ne suit pas les cas individuels des enfants qui sont adoptés à l'étranger. Ceci dit, nous travaillons comme une de nos axes prioritaires donc sur la construction d'un système holistique de protection de l'enfant qui peut donc prévenir aux différentes violations des droits des enfants et aussi à répondre. Donc, la question de l'adoption internationale, nous la regardons de très près et nous appuyons l'État congolais et surtout le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Femme, Famille, Enfants, donc de saisir cette question dans l'esprit de faire prévaloir donc le meilleur intérêt de l'enfant, donc de chaque fille, de chaque enfant, de chaque fille, de chaque garçon qui pourrait être en voie d'adoption nationale ou internationale. Donc, notre soutien au gouvernement vise donc le renforcement de la protection. Et ce qui est important pour l'UNICEF, c'est que pour les enfants qui ne peuvent pas vivre avec leurs parents biologiques, donc en RDC, qu'on puisse trouver des soins alternatifs qui sont adaptés au développement et à la protection de l'enfant. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question.
Une question sur la gauche ici, ensuite on reviendra ici, hein, ne vous en faites pas, mais avancez le micro. Hein. Je sais que le porteur du micro veut lui-même poser une question, mais c'est une façon...
Merci, Thierry Maï de l'agence congolaise de presse. Monsieur le porte-parole, la MONUSCO a la cartographie des groupes armés. La MONUSCO a un appui-feu aux FRDC. La MONUSCO a une brigade d'intervention rapide. Qu'est-ce qui fait que les populations sont toujours surprises par les groupes armés, que ce soit à Erengeti, à Miriki ou ailleurs, alors que vous savez situer les groupes armés là où ils sont et vous n'intervenez qu'après les massacres?
Bon, une précision, on n'a pas de brigade d'intervention rapide, on a une brigade d'intervention. Bon, la question, nous sommes effectivement présents dans le Nord Kivu de façon générale. Nous aimons à le rappeler, nous intervenons en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo qui ont cette mission première de sécuriser le pays, de défendre donc les populations à l'intérieur des frontières nationales. Et c'est vrai que, une fois de plus, les différentes résolutions du Conseil de sécurité nous demandent expressément d'appuyer les forces de sécurité afin de ramener la paix, la sécurité, la stabilité dans l'ensemble de l'Est du pays. Il se trouve que, une fois de plus, nous allons organiser tout au long de cette année 2016, d'ailleurs, des visites de terrain pour les journalistes, c'est vrai, de Kinshasa, mais aussi de Goma, pour voir. C'est des territoires immenses et même si nous disons que nous sommes présents, par exemple, dans le territoire de Lubero, où il y a eu lieu, j'allais dire, cette attaque des FDLR américains, nous ne sommes pas exactement au point où il y a eu lieu ces attaques. Il se trouve que dans le cas de Miriki, par exemple, l'attaque a eu lieu à l'arme blanche, donc presque silencieusement. Et c'est après avoir fini leur sobre besogne, que nous avons condamné fermement, que des coups de feu ont été tirés en l'air et aussitôt, les FRDC et la MONUSCO ont dépêché rapidement des troupes sur le terrain, mais l'ennemi s'était enfui. On a organisé ensuite, comme vous le savez, le renforcement des positions autour de Miriki pour renforcer la population et prise en chasse les assaillants qui avaient fait, commis ces exactions, ces tueries, ces massacres à Miriki. C'est vrai que nous sommes présents une fois de plus dans l'ensemble du pays. C'est vrai que nous avons les moyens dont vous parlez. Nous avons une cartographie, mais cette cartographie aussi est aux mains. N'oubliez pas des FRDC, ils savent très bien où sont les différents groupes armés dans l'est du pays. C'est ensemble, et nous l'avons dit, que nous sommes plus forts. C'est ensemble que nous pouvons mener à bien ce combat avec, j'allais dire, les informations que la population locale, parce que parfois, certains groupes armés sont entremêlés avec ces populations locales. Il faut qu'ils nous remontent ces informations pour que nous soyons encore plus efficaces. C'est vrai que nos services, essaient de recouper un certain nombre d'informations, d'avoir des informations de première main pour être beaucoup plus performantes. C'est vrai que nous avons aussi ces drones qui nous aident beaucoup. D'ailleurs, à plusieurs reprises l'année dernière, ils ont permis de localiser un certain nombre de groupes armés qui étaient cachés dans la forêt et qui ont été ensuite la cible, non seulement des artilleurs de la brigade d'intervention, mais aussi de la brigade d'intervention elle-même. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail pénible dans cette zone de forêt. C'est pas une zone, j'allais dire, sahélienne ou désertique où on voit l'ennemi très loin, à 10 mètres parfois, on ne peut pas voir l'ennemi. Et parfois, pour progresser même dans la forêt et atteindre les objectifs et faire et ouvrir le feu, c'est pas toujours évident. Donc voilà un peu ce que je peux dire, mais ce travail va monter en puissance cette année 2016, c'est sûr, et nous allons avoir le dernier mot, ça aussi c'est sûr. Voilà, je crois que d'un moment à l'autre, Radio Capi va donc poursuivre ses émissions avec un flash d'information. Merci aux auditeurs de Radio Capi, nous allons rester ici, comme c'est la première conférence de presse de cette année, nous allons la poursuivre avec d'autres questions sur ma droite. Ok, allez-y.
Isaac Ngwenza pour le compte de Congo Opportunities Media. Cette année 2016, c'est l'année électorale. D'un côté, nous voyons le scénario entre la classe politique congolaise, l'opposition et le gouvernement n'arrivent pas à s'accorder sur le dialogue. Ils ont des agendas cachés. D'un côté, nous voyons la mission des Nations Unies, qui est un partenaire du gouvernement. Vous appuyez les FRDC, la police. La MONUSCO s'est investie dans la formation de la police et aujourd'hui, le gouvernement est sûr de disposer d'une police apte à mater les manifestations. Ma question est de savoir, parce que gouverner signifie aussi prévoir. Le plan A, tout le monde s'attend à cette année qu'il y aura des élections. Mais en cas de non-tenue des élections, si la population s'est dit, comme il n'y a pas d'élection, nous chassons le gouvernement. On descend dans la rue. La MONUSCO qui a le mandat de la protection de la population civile, de l'autre côté, partenaire du gouvernement. Allez-vous appuyer la police pour mater la population ou vous allez vous interposer pour protéger la population? Merci.
Il y a beaucoup de si dans votre question. Hein. Donc avec des si, on met Paris dans une bouteille. Donc on ne va pas mettre Paris dans une bouteille aujourd'hui. Hein. On ne peut pas tabler sur des si d'un plan A, d'un plan B, d'un plan C. On va finir les lettres de l'alphabet si on continue ainsi. Non, je crois que les missions de la MONUSCO sont claires. Et c'est des missions, une fois de plus, dictées par les résolutions des Nations Unies. Il y a la protection des civils, et cette protection des civils, qu'elle soit à Goma, qu'elle soit à Kinshasa, qu'elle soit ailleurs, nous allons protéger la population ou les populations. C'est clair. Et nous allons, à travers les bons offices, interpeller qui de droit pour nous assurer que le message de la communauté internationale passe et passe bien. Et ça aussi, c'est clair. Et c'est pour cela, pour peut-être essayer de préparer le terrain à aller dans le bon sens, nous essayons de faire un travail en amont en interpellant la CENI pour l'aider, pour l'interpeller à ce qu'elle s'engage résolument dans la préparation de ces élections qui, pour nous, devraient avoir lieu dans les délais constitutionnels. Ça a été très clair depuis l'année passée, c'est le même discours que nous avons. Et nous voulons vraiment être les partenaires du gouvernement, c'est vrai, dans l'organisation de ces élections. Nous avons donné, nous avons offert non seulement les bons offices, mais l'appui financier et technique des partenaires, notamment du système des Nations Unies, des agences qui se disent prêts. Dès que le signal sera donné, nous répondrons présents. Donc, essayons d'éviter les si, les plans A, les plans B, parce que ça complique la donne et vous n'êtes sûr de rien. Et c'est vrai. Il y avait une question au fond, là, dans le couloir. On m'a dit, je veux une ou deux mains levées. Madame, vous voulez poser une question, non? Oui ou non? Il y a toujours un monsieur aussi au fond. On va revenir parce que, parce que sinon les gens du fond vont croire qu'on les néglige. Allez-y.
Charles Kalombo, pour le compte du globe terrestre, c'est un hebdomadaire. Bon, en principe, la question, je devais la poser au général Wafi. Comme il n'est pas là, le colonel peut ramasser cette question-là. Bon, lors de son discours d'adieu dans la salle, le général Wafi avait vanté son bilan qu'il qualifiait lui-même de positif dans l'optique des formations dispensées par les Nations Unies au FARDC. Bon, la vérité étant toujours têtue, dit-on, les contingents congolais que lui-même avait formés, expédiés en Centrafrique, a été, enfin, je peux dire, pour ne pas utiliser un mauvais langage, a été considéré comme d'une incompétence notoire, raison pour laquelle on est tenté de les refouler ici chez nous. Mais la question qui me reste en tête est que, comment le général Wafi, que je respecte, s'est-il permis de nous mentir ici que la formation a été bien dispensée,
hein? Bon, je vais répondre à votre question.
Sur le terrain,
ça a été clair. Je vais répondre à votre question. D'abord, le général Wafi n'est plus là. Il est aux Nations Unies comme ambassadeur de son pays. Il faut dire que le général Wafi est un policier. C'est pas un militaire. Le contingent en RDC, de la RDC présente en Centrafrique, c'est des militaires. C'est pas des policiers. Donc le général Wafi n'a en aucun moment formé ces militaires congolais qui sont en Centrafrique. Il a formé plutôt, il a participé même, disons, à la formation de quelques policiers congolais, c'est tout. Donc c'est une question qui est un peu très mal posée d'ailleurs. Les agences du système des Nations Unies ont une annonce à faire.
Oui, une information de dernière minute pour vous annoncer que le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, déplore le démantèlement du site de déplacement de Mokoto, situé à environ 70 km au nord-ouest de Goma, dans la province du Nord-Kivu. Hier, le 12 janvier, environ 4260 personnes déplacées qui habitaient dans ce site de Mokoto ont été chassées de leur habitation et le site a été complètement rasé par les autorités. Donc les Nations Unies déplorent le démantèlement de ce site. Le communiqué a été imprimé et vous sera remis à l'issue de cette conférence de presse. Et les collègues d'OCHA sont présents dans la salle pour répondre éventuellement à des questions et du HR à ce propos maintenant ou après la conférence de presse.
Nous avons prévu tout de suite après cette conférence de presse une petite collation que nous allons offrir à la presse à Kinshasa, pas à Goma. Goma, ça sera dans les prochaines semaines quand j'y serai. Et donc, nous allons vraiment mettre fin à cette conférence de presse maintenant. Et nous allons peut-être prendre les questions. S'il y a des questions, nous allons les prendre. Hein. Je peux vous dire que... attendez, on n'a pas fini. Maman Sambo Sidikou, que vous n'avez pas encore vu, nous a demandé d'organiser un petit déjeuner de presse pour la presse congolaise. Il veut de façon conviviale rencontrer la presse ici à Kinshasa. On fera la même chose aussi à Goma pour ne pas faire de jaloux. Et on est en train de préparer ça. Dès que ce sera prêt, on va le faire en dehors des locaux de la MONUSCO quelque part en ville. Et on va vous inviter. J'espère que vous répondrez présent. La presse internationale et la presse nationale en même temps. C'est comme ça qu'il veut vous recevoir, parce que c'était prévu qu'il vienne ici. On ne l'a pas vu, d'ailleurs. Ils vont dire, mais il fuit les médias, quoi. Il ne fuit pas les médias. Il est journaliste de formation et il va vous rencontrer de façon plus conviviale quelque part. Voilà, fin de cette première conférence de presse des Nations Unies en ce début d'année. Merci à tous et à toutes et à la semaine prochaine. Voilà.